When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Looking for Jacqueline, épisode 3, les pouvoirs publics. La découverte du corps de Jacqueline P. dans son appartement le 31 décembre dernier à Libourne, 3 ans après son décès, a marqué ses voisins et les commerçants de son quartier. Vous les avez entendus dans les 2 premiers épisodes de cette série. Nous sommes allés à leur rencontre sans vraiment parvenir à comprendre qui était Jacqueline P. Sans comprendre non plus comment personne n'avait remarqué son décès. Nous continuons notre tour d'horizon de celles et ceux qui ont été à leur insu impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette affaire. Ce fait divers a aussi été un moment très particulier pour le maire et pour les gendarmes de la ville. C'est à eux que nous laissons la parole dans ce 3e épisode d'une série qui en comporte 5. Le lieutenant-colonel Guillaume Marois est à la tête de la compagnie de gendarmerie de Libourne. Il explique dans quel cadre les militaires ont été appelés sur cette affaire et quel rôle ils ont joué.
La gendarmerie intervient donc le 31 décembre 2022 dans la matinée. Les pompiers, si vous voulez, sont engagés pour une fuite d'eau, donc de l'eau qui coule sur une boutique au rez-de-chaussée dans le cœur de la Bastide libournaise. Les pompiers se dirigent donc au premier étage pour découvrir les origines de la fuite et procèdent à une ouverture de porte dans l'appartement. Et c'est là qu'ils font une découverte de cadavre d'une personne qui est donc décédée dans son appartement. Et donc les pompiers suivent la procédure, à savoir appeler la gendarmerie qui déplace donc un officier de police judiciaire sur place pour procéder aux constatations.
À ce stade, vous vous posez peut-être une question assez logique. Comment les voisins n'ont-ils pas été alertés par l'odeur émanant du corps de Jacqueline P. ? Lorsque des personnes décèdent seules chez elles, c'est l'odeur de leur cadavre le plus souvent qui amène à les découvrir. Au bout de quelques jours, voire de quelques semaines, mais très rarement plus. Ici, plusieurs facteurs expliquent l'absence ou la quasi-absence d'odeur de décomposition. D'une part, Jacqueline P. était très sensible au bruit. Elle avait calfeutré ses fenêtres et ses portes, empêchant ainsi également les odeurs de s'échapper. D'autre part, sa maladie l'amenait à maintenir assez haute la température de son appartement, créant une atmosphère chaude et sèche. Enfin, et de source médicale, la septuagénaire prenait des anticoagulants dans le cadre de son traitement contre le cancer, un produit utilisé par les thanatopracteurs pour embaumer un corps. C'est l'ensemble de ces facteurs qui expliquent que le corps de Jacqueline P. ait été momifié, pour reprendre l'expression du lieutenant-colonel Marois.
L'OPJ constate la présence d'un corps. Pas de désordre particulier, un appartement qui est fermé, un état de décomposition du corps qui est assez avancé. La première enquête permet, au regard du courrier, des denrées alimentaires et de tout ce qui est trouvé dans l'appartement, de dater les derniers signes de vie à l'été 2019. C'est ce qui oriente, si vous voulez, nos premières investigations. Et ensuite, à la demande du parquet, une médecin légiste se transporte sur les lieux pour effectuer un examen plus particulier du corps. Alors, notre rôle, c'est de déterminer les causes de la mort. C'est en ce sens que le parquet nous saisit, hein, pour qu'on puisse déterminer l'absence d'une infraction pénale. Donc, une fois que l'autopsie est réalisée, que les constatations faites sur place par l'officier de police judiciaire, l'absence d'indices qui permettent de penser à une intervention extérieure sont prises. On clôture la procédure et on en conclut à une absence d'infraction, donc un classement sans suite par le parquet.
Pour tenter de savoir si Jacqueline P. avait des enfants ou de la famille plus largement, les gendarmes se sont d'abord tournés vers ses voisins.
Il arrive assez régulièrement qu'on prévienne, hein, la famille, au même titre que les élus. Hein. C'est une des missions difficiles, hein, qu'ont à faire les militaires de la gendarmerie. Mais pour ça, il faut qu'on ait des informations sur la présence d'une famille. Là, la première enquête de voisinage ne nous oriente pas sur des enfants connus. Alors, une dame nous dit que potentiellement elle aurait un enfant, mais sans en savoir plus. Il n'y avait aucun élément dans l'appartement qui nous permettait de savoir si cette personne avait une famille. Alors, à l'issue de l'enquête qui nous a permis de confirmer d'abord l'identité de la victime, nous avons été destinataires donc, par les services d'état civil de la filiation de la victime. Donc, on a pris connaissance que la victime avait deux enfants, un homme et une femme. Et donc, on a pris contact avec eux, tout d'abord pour s'assurer qu'ils étaient au courant du décès de leur maman. Et ensuite, on les a entendus pour comprendre la situation et puis ensuite pour les suites à donner, notamment pour la remise du corps à la famille. Alors, on a appris que c'était une maman qui avait un peu coupé les ponts avec ses enfants. Son fils depuis une quinzaine d'années et sa fille depuis une dizaine d'années, pour des raisons qui ne nous sont pas expliquées clairement, des désaccords familiaux. Il n'y avait plus de contact depuis plusieurs années entre la mère et ses enfants. Malgré une volonté de parfois de certains, au moins un de ses enfants, de reprendre contact, mais les contacts n'ont pas été jusqu'au bout. Les deux enfants n'ont pas pu nous apporter plus d'éléments sur la fin de vie de leur maman.
L'enquête aurait pu s'arrêter là, mais les gendarmes ont tenté de comprendre l'isolement de Jacqueline. Ils ont essayé de savoir si elle avait des frères et sœurs, des cousins encore en vie, où elle avait vécu, s'il restait des racines familiales, sans grand succès.
Alors, les seules informations qu'on a sur cette famille, c'est, et dont se souviennent les enfants, c'est les grands-parents avec qui voyaient pendant leur jeunesse, et c'est les seuls contacts un peu familiaux qu'ils avaient, notamment en Dordogne. Il semblerait qu'elle ait habité quelques années à Ménesplé, dans le 24, mais ses enfants n'avaient pas connaissance de son déménagement sur la commune de Libran. Mais il n'y a pas d'autres éléments, notamment sur de la famille proche de la victime. On n'a pas d'autres éléments qui nous ont été communiqués. L'audition des deux enfants marque un peu la clôture de la procédure, une fois qu'elle a été identifiée, une fois qu'on a pu apprendre ce décès aux deux enfants, et ensuite remettre le corps à la famille. À partir de là, nous ne sommes pas remontés pour savoir exactement la chronologie de sa vie.
Habitués aux faits divers difficiles, les gendarmes de Libourne gardent cependant un souvenir particulier de celui-ci, le lieutenant-colonel Marois.
C'est quand même un fait marquant. Des découvertes de cadavres, les militaires de la gendarmerie en font très régulièrement, malheureusement. Ça fait partie du quotidien. Et 3 ans, c'est une affaire qui marque. Et effectivement, les gens s'interrogent, et nous aussi, on s'interroge sur comment on peut en arriver là, la fin d'une vie qui se termine par 3 ans. 3 ans passés dans son appartement.
Le maire de Libourne, lui aussi, a été impliqué immédiatement après la découverte du corps de Jacqueline. Philippe Buisson se souvient des circonstances dans lesquelles il a pris connaissance de ce fait divers.
C'est une affaire que j'apprends de manière progressive. C'est-à-dire qu'on m'appelle d'abord le 31 décembre dernier à 9h30 du matin pour m'annoncer une fuite d'eau, un dégât des eaux dans un commerce de la rue Gambetta, la rue piétonne de Libourne, événement qui ne me stresse pas trop, et on me rappelle un quart d'heure après pour me dire « mais c'est plus grave que ce que l'on pensait, c'est-à-dire qu'on a retrouvé un cadavre, et on ne me dit rien de plus ». Est-ce que c'est le cadavre du commerçant? Est-ce que c'est une affaire criminelle? J'en sais strictement rien, on est le 31 10h, je suis moi-même à Bordeaux, pas présent sur Libourne immédiatement. Et donc j'envoie l'adjointe d'astreinte, mais je me rends compte qu'il y a quelque chose qui d'important qui est en train de se dérouler. Et on me rappelle un quart d'heure en suivant en me disant « mais c'est une vieille dame ». Qu'on a retrouvée morte chez elle, ça peut arriver, sauf que là, elle est complètement momifiée et morte depuis très probablement plusieurs années. Et ce n'est qu'ensuite, au cours de la journée, que gendarmerie et mes services me disent effectivement, elle est morte probablement depuis plus de 3 ans, parce que les délais de péremption des produits dans le frigo datent de 2019 ou 2020. La Poste s'acharnait à mettre des courriers dans une boîte aux lettres qui était déjà bien remplie et effectivement, elle n'avait pas été relevée depuis plusieurs années. Donc, c'est comme cela que je l'apprends, je le redis, le jour de la Saint-Sylvestre. Et immédiatement, j'enclenche une enquête auprès des services sociaux. Et on s'aperçoit assez vite que c'est une personne qu'on n'identifie pas dans aucun de nos dispositifs d'accompagnement des personnes âgées ou d'accompagnement social. C'est une personne qui ne semble pas être connue par son voisinage immédiat. La voisine elle-même dit « Moi, j'ai jamais vu quelqu'un sortir de cet appartement », dit-elle, en rajoutant « Cela étant, je ne suis là que depuis 3 ans ». Effectivement, bon. Donc, voilà, c'est un vrai drame de la solitude, cette mort sociale qui précède la mort tout court, la mort isolée, et forcément, ça questionne le maire que je suis, au titre de la municipalité, au titre d'action sociale portée par le CCAS, mais aussi, ça questionne l'individu. Comment cette société aujourd'hui fonctionne et prend soin de ses aînés.
Le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale, c'est l'organisme censé apporter une aide et un soutien aux personnes en difficulté, notamment aux personnes âgées ou handicapées. Ironie de l'histoire, quelques semaines plus tôt, Libourne avait reçu le label Ville Amie des Aînés. Mais la mort de Jacqueline a amené la municipalité à s'interroger sur les causes sociales de cet isolement, sur les actions à mener aussi. Philippe Buisson avance 3 pistes en particulier.
Ça en dit long sur une société qui a à bien des égards déshumanisés. On passe notre temps à communiquer grâce aux réseaux sociaux avec des gens qu'on ne connaît pas à l'autre bout du monde. Et on ne parle plus à son voisin de palier. Bon, je ne donne pas de leçons parce que je suis probablement moi-même un peu comme ça. Donc, je le dis avec beaucoup de questionnements, mais aussi d'humanité sur la nature humaine. Donc, ce qui m'importe, moi, c'est qu'on puisse réfléchir à la bonne réponse institutionnelle que nous devons aujourd'hui construire. La réponse sur l'humanité, chacun en son fort intérieur pourra faire son chemin. Mais ce qui est important, c'est la réponse institutionnelle. Comment, dans un moment où on a eu à gérer des crises, et notamment des crises sanitaires, qu'elle soit le Covid ou qu'elle soit la canicule, les dispositifs grand froid. Demain, un jour, viendra où il y aura des coupures d'électricité, où il faudra qu'on interpelle les personnes les plus fragiles, qu'on les connaisse mieux. Comment on peut construire un fichier vertueux qui recense les personnes isolées sur une ville de 25 000 habitants sans avoir trop de trous dans la raquette ? C'est une question qui est complexe parce que c'est forcément sur la base du volontariat. La personne âgée elle-même, c'est rarement elle qui fait cette démarche, en vérité. Soit parce qu'elle n'en a pas conscience, soit parce qu'elle n'en a pas envie. Mais c'est forcément l'entourage familial qui a été défaillant, là aussi, l'entourage amical, qui, à un moment donné, a oublié cet ami. Ce sont eux qui doivent savoir quelle démarche faire. Donc, à nous de progresser sur la méthode et sur l'invitation à bien faire référencer nos aînés isolés auprès du CCAS. Deuxièmement, une collectivité, elle est aussi investie dans les réseaux, dans ce qui alimente un appartement, en eau, en électricité, en gaz, en ce que vous voulez. Donc on a des délégataires. Et moi, je vais interroger notre délégataire en eau, par exemple, pour qu'on mette des cliquets d'alerte. Quand on sait qu'il y a un appartement qui est occupé, c'est-à-dire qu'il y a un compteur, il y a un abonnement, et qu'il n'y a pas de consommation pendant des mois, voire des années. Donc on doit pouvoir mettre des cliquets d'alerte. Et puis, on va, troisièmement, crée un partenariat un peu spécifique avec la Poste. Libourne est une ville postale importante, que l'on connaît notamment pour le secrétariat mondial du Père Noël. Mais pas simplement. Il y a plusieurs centaines de travailleurs de la Poste dans des services très spécifiques, des services nationaux de la Poste. Donc, puisqu'on est ville de Libourne et la Poste, de toute façon, un partenaire. Et puisque la Poste est encore aujourd'hui le rare service public à toquer à toutes les portes quasiment chaque jour. Autant profiter de cela pour faire en sorte qu'un postier, dans sa tournée, puisse aussi avoir une fonction de veille sur nos aînés isolés. Là, il y a eu une défaillance. Un postier, pendant 3 ans, bourre une boîte aux lettres qui était déjà bien remplie. Bon, il y a un moment, ça doit alerter. Et cette procédure existe, puisque j'ai interpellé le directeur de la Poste. Cette procédure existe. Peut-être y a-t-il eu un manquement. Là aussi, pas de grief au facteur, mais on va, dans un dialogue performant avec la Poste, convenir, par convention, d'un partenariat. La ville de Libourne va rémunérer la Poste pour ce partenariat, pour veiller sur nos aînés isolés.
Certains de ses voisins ont eu du mal à comprendre et accepter que l'hôpital de Libourne ne s'inquiète pas des absences de Jacqueline P. à ses rendez-vous médicaux. Faut-il une meilleure communication entre les soignants et la municipalité ? Difficile, voire impossible, répond le maire de Libourne.
Je ne pense pas que ce soit envisageable, parce qu'effectivement, le secret médical l'empêche. Donc, de ce point de vue-là, en tout cas, jamais une ville ne pourra avoir accès à des informations d'ordre médical sans le consentement de la personne. Ce que le monde médical peut faire, c'est promouvoir cette fameuse liste des personnes isolées, cette liste d'inscription auprès du CCAS qui nous permet au moins plusieurs fois par an de passer un coup de fil pour savoir si la personne va bien. On le fait notamment aux périodes des crises, je le redis, Covid ou canicule, mais on pourrait le systématiser plusieurs fois dans l'année. Ça, le monde médical pourrait être complètement associé à cette démarche. Mais on n'a pas à être, nous, informés de la nature, de la gravité des maladies dont souffre même une personne isolée. Il y a peut-être une exception, qu'on a découvert d'ailleurs avec la crise énergétique cet hiver, c'est le fameux fichier des personnes isolées vivant sous respirateur et qui font l'objet... Certains d'entre eux, là aussi, il y a beaucoup de trous dans la raquette qui font l'objet d'un fichier auquel les municipalités ont droit d'accès.
Jacqueline P. est morte seule sans que personne ne le remarque. La mairie, les pouvoirs publics ont une part de responsabilité dans cette tragédie. Alors le maire de Libourne souhaite que ses services portent une attention particulière à la sépulture de Jacqueline P. Philippe Buisson.
Au-delà du fait de faire en sorte que cet incident ne se reproduise pas, ce qui est un traumatisme ici, c'est la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est sur la rue Gambetta, la rue piétonne, l'artère principale de la ville de Libourne, c'est à 100 mètres de la mairie, c'est dans un tout petit immeuble. Ça choque. Mais donc il faut mettre en place une procédure pour empêcher que ça arrive à nouveau, ici et ailleurs, pourquoi pas. Et puis maintenant, il y a une forme de on lui doit une forme de réparation mémorielle. Donc on va effectivement travailler à ça, entretenir là où elle s'est fait enterrer, ou en tout cas une sépulture. On va demander au CCS de veiller à cela, redonner un nom et un prénom à l'inconnue morte la nuit de la Saint-Sylvestre.
Redonner à la victime un nom, un prénom, un parcours, à défaut une place dans notre histoire commune, c'est aussi se contenter de faire certains journalistes de la presse locale ou nationale. Dans le prochain épisode, vous entendrez deux d'entre eux. L'un travaille pour Sud-Ouest à Libourne, l'autre pour Libération, dont elle est correspondante en Nouvelle-Aquitaine. Tous les deux restent aussi marqués par ce fait divers hors norme. Vous venez d'écouter l'épisode 3 de Looking for Jacqueline, une série de podcastines. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt sur Podcastine, évidemment.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.